Avant de lire, parce que quand je vais lire le verset, ça va avec mon premier point, on fait la deuxième partie de cette conclusion. Les amis, je vous annonce que c'est le début de la fin de cette série. Et aujourd'hui, là, en ce moment, ça, là, on marque le début de la fin, parce que c'est le dernier message de cette série. C'est notre victoire en Jésus-Christ. Et l'idée là, de la marche par la foi qu'on a commencé à voir dans le dernier message et qu'on continue aujourd'hui pour conclure, dans le fond, c'est de perpétrer, s'assurer que ça continue ce qu'on a appris. On a vu trois éléments d'abord, les éléments fondamentaux de notre marche par la foi. Juste pour réviser, là, on a vu d'abord que le succès, puis le succès en termes bibliques, là, pas dans les termes du monde, mais le succès provient du fait d'avoir les bons buts. Ceux de Dieu, vous rappelez-vous? Il faut avoir des bons buts, mais si ce n'est pas ceux de Dieu, ça ne va pas marcher. Si je veux une vie sans problème, harmonieuse dans toutes mes relations, ça ne va pas arriver. Parce que dans notre monde qu'on est, les choses ne vont pas comme on voudrait. Mais si je veux les buts de Dieu dans ces problèmes, dans ces choses de la vie difficile, là, je vais avoir du succès. Dans les choses, justement, de Dieu. Notre valeur, la valeur qu'on a, provient du bon usage de notre temps. Si on s'investit dans les choses éternelles, et ça, on pourrait être dans le ministère pour ça, si ce qu'on fait a une portée éternelle, ce qu'on dit, la direction de notre vie, c'est de là que va venir la valeur de ce qu'on fait. Le sentiment d'accomplissement provient de notre service envers les autres. On a vu l'exemple avec Jésus, qui était constamment tourné vers les autres. On a eu un bon message là-dessus, d'ailleurs, dimanche matin passé à Moncton, ceux qui étaient là. Donc, on a considéré ces choses-là et on va continuer, dans le fond, simplement pour voir l'idée là, de la marche par la foi, c'est ajouter foi à ce que Dieu nous dit. Si Dieu dit des choses dans sa parole qui sont telles quelles, ben, si on le croit, si on agit selon ça, ben, on va en bénéficier, on va avoir la bénédiction qui va avec. Et c'est ça aussi qui va donner un sens et un but à notre vie. On ne va pas juste en aller comme ça, tasser de gauche à droite à tout vent de doctrine, mais on va avoir un sens, un but à notre vie. Et c'est la seule manière de vivre la vie. Le juste vivra par la foi. Et donc, ou pour le dire autrement, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis encore dans cette chair-là, dans mon corps, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Donc, on va continuer ce qu'on a commencé. On a vu les trois premiers points. On va voir les autres aujourd'hui. Et donc, dans Matthieu 5, au verset 6, il y a une des béatitudes. « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. » Le point que j'aimerais regarder ici, c'est que la satisfaction provient de vivre une qualité de vie. Et j'explique. Ici, Jésus dit « heureux, heureux », ok, une bénédiction pour ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés, ils vont être satisfaits. Ils resteront pas sur leur appétit. La vérité, c'est qu'il n'y a pas de vie autre qui vaut la peine d'être vécue que celle que Dieu nous donne. Il n'y a pas de vie qui satisfait autre que la vie que nous avons en Jésus-Christ. Jésus a dit « Je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. » La Bible aussi nous dit que en lui, nous avons la vie. Oui, la vie éternelle qui dure toute l'éternité, mais une qualité de vie, une vie comme ça ne se compare pas, une vie dont, bon, c'est tout basé sur Christ, sa justice, Christ en nous. C'est la seule chose qui donne la satisfaction. Le reste, c'est des vanités, rien que vanité. Et peut-être qu'on se dit, je vais essayer de travailler plus fort pour essayer d'amener la justice dans le monde. Puis, en fait, l'idée ici, c'est pas tant de travailler plus fort, c'est d'avoir faim. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. L'idée, c'est que ce soit le désir de nos cœurs de voir cette justice de Dieu dans nos vies. Pas justice propre, mais celle de Dieu, celle de Christ. Et ça va vraiment produire de la réelle satisfaction dans notre vie quand c'est notre désir, notre soif et notre faim. Je vous donne un exemple. Des fois, on comprend avec les contrastes. Pensez à quelque chose que, il y a longtemps ou moins longtemps, vous avez acheté et qui promettait. D'ailleurs, c'est quoi la publicité de nos jours? C'est vendre l'insatisfaction. Si t'as pas ça, tu peux pas être content. N'est-ce pas que c'est ça, hein? Ah, quand tu vas avoir mon produit, là, tu vas être vraiment heureux et satisfait. Puis là, ben, on peut tomber un peu dans ce piège-là en disant, ouais, ben, ça promettait beaucoup, mais ça m'a laissé, comment? Insatisfait. Que ce soit une nouvelle auto, maison, vêtements, service de quel que ce soit, quelle forme que ce soit. C'est quoi le problème? C'est qu'on n'a pas trouvé la qualité de vie que nous espérions trouver avec cette chose. Pourquoi? Parce que la satisfaction est reliée à la qualité de ce qu'on recherche. Et on obtient une plus grande satisfaction en trouvant les choses qui ont une réelle qualité, c'est-à-dire les choses qui sont d'une valeur éternelle, qui sont spirituelles. Puis même à ça, je vais donner des applications pour un peu élargir à ça. Ben, des fois, ça peut rester flou, spirituel, c'est quoi que je veux dire par là? OK, je vais vous donner une couple d'exemples, ça va vous aider à comprendre. Vous savez que des fois, on peut faire moins ou peu, OK? Mais bien, au lieu de faire tout vite, plein de choses, tout croche. Et c'est-à-dire qu'on peut se dévouer à gauche et à droite ou on peut se concentrer sur des choses plus spécifiques de qualité. Par exemple, c'est possible d'avoir 1000 amis sur les médias sociaux. C'est-tu des vrais bons amis? C'est-tu quoi? C'est possible d'avoir un ou deux vrais amis en personne, en chair et en os, à qui on peut parler, se confier. Voyez-vous la différence, la qualité? On peut avoir 10 passe-temps, puis aider 10 personnes différentes, ou on peut avoir un ou deux passe-temps de qualité, et une ou deux personnes dans lesquelles on peut s'investir de tout cœur. Pour prendre un exemple biblique, Jésus avait 70 disciples, là, prenez toute la foule, là, 70 qui a sélectionné. Mais même de ce groupe de 70, il y en a 12 dans lesquels il s'est investi spécialement. Et de ces 12, il y en a 3. Pierre, Jean, Jacques, avec qui il a passé des moments cruciaux de son ministère. Transfiguration au Gethsémané, Mont des Oliviers, guérison de cette fille de Jairus. De même, on a tous besoin de la satisfaction de relations, de qualité, de choses significatives. Et pensez-y. Pourquoi que, puis là c'est un exemple très concret, pourquoi qu'on trouve ça précieux l'Église puis qu'on est donc content? Je pense que c'est exactement à cause de ça. On n'est pas une grosse Église avec 500 personnes puis qu'il y a plein de monde, mais on est une petite Église qui est comme une famille. Il y a quelque chose de comme, il y a une qualité. Puis c'est ça qui amène la satisfaction, tu es là, hey, je suis content, mais ça, je suis pas juste venu pour remplir les 2 heures du dimanche matin du chrétien, là, puis... Je suis rentré, je suis sorti, j'ai vu 2 personnes, j'ai dit bonjour à une, puis comprenez-vous? C'est pas pareil. Puis malheureusement, on vit dans une chrétienté qui est beaucoup axée là-dessus. Toutes sortes de choses, de quantité, puis tout ça. Mais la qualité des relations, la qualité de notre temps avec le Seigneur, de notre temps les uns avec les autres. Donc c'est ça qui amène vraiment la satisfaction. Maintenant, le 5e élément, parce qu'on a vu 3, puis là, on vient d'avoir un 4e. 5e élément de notre marche par la foi, le bonheur provient de vouloir ce qu'on a. Un peu dans le sens de ce qu'on vient de voir, mais écoutez bien, le bonheur vient de vouloir ce qu'on a. OK, qu'est-ce que le monde dit? Le concept que le monde a du bonheur, c'est d'avoir ce qu'on veut. N'est-ce pas? Là-dessus, je vais vous lire un passage. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais du monde. Donc c'est ça. Hey, là, j'ai toutes sortes de choses que je vois, une convoitise des yeux, de la chair, l'orgueil de la vie. Et je veux ça, puis je me dis, si j'ai ça, là je vais être content. Pourtant, dans le monde d'opulence dans lequel on est, on s'entend, dans un monde riche et opulent, on n'a jamais autant de personnes malheureuses et vides. Vanité des vanités. Et écoutez là-dessus ce que Paul dit à Timothée. Il dit, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Et nous n'avons, car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter Sinon, nous avons la nourriture et le vêtement. Et là, ce qu'on peut dire, notre amène là-dessus, cela nous suffira. Ouf! Il y en a qui l'ont vécu d'avoir juste la nourriture et le vêtement. Mais nous autres, on a tellement plus, puis on voudrait plus. Alors, c'est pour ça que le bonheur, c'est pas d'avoir ce qu'on veut, mais plutôt de vouloir ce qu'on a. Hey, j'ai ça là, puis je suis content. Puis je veux pas plus. Je veux ce que j'ai. Et non pas je veux ce que j'ai pas. Ouais, c'est pas mal ça l'idée. Ou on pourrait dire, pour le mettre avec un peu plus de latitude, au lieu de se concentrer sur ce qu'on n'a pas, sur ce qu'on peut pas faire ou ce qu'on peut pas être, puis là ça nous rend misérable, on se rend compte que Dieu nous a donné ce qu'on a besoin d'avoir, il nous permet de faire ce qu'on a besoin de faire, puis il nous a permis d'être ce que lui veut qu'on soit. Et ça, c'est ce qui nous amène le bonheur, juste d'être content de tout ça. J'ai appris à être content dans l'état dans lequel je me trouve. Et donc, c'est une question de focus d'attention. Lorsque le focus change de « Ah, j'aimerais donc avoir ça, ce que j'ai pas », et qu'on commence à apprécier simplement ce qu'on a, le voyant comme le voyant venant de Dieu, « Merci Seigneur, action de grâce que tu me donnes ces choses », ben là, on est vraiment content. Même si c'est juste le vêtement et le boire. Je vais vous dire, pour notre frère dont j'ai partagé le témoignage, savez-vous, quand il est sorti de prison, là, puis après avoir presque payé du prix de sa vie pour sa foi, là, il devait être content juste de pouvoir respirer l'air, d'avoir des vêtements sur son dos, puis d'espérer pouvoir manger un petit quelque chose en sortant. Parce qu'il a appris la valeur des choses, il avait tout perdu le reste. Mes amis, c'est bon pour matière à réflexion. Ça fait partie de ça, le juste vivra par sa foi. Hey, pour l'amener peut-être dans des circonstances moins lointaines, les personnes, les circonstances que Dieu nous a données. Savez-vous quoi que Dieu, son but, c'est pas « Ah, ben là, tu sais, Dieu veut nous bénir, puis toutes choses bonnes viennent en son temps, mais même les personnes qui nous dérangent, même les circonstances qu'on aurait voulu différemment, savez-vous, c'est quoi qui va faire la différence? C'est soit entre l'attitude « Ah, Dieu, c'est la femme que tu m'as donnée! » N'est-ce pas un bon verset de la Bible, ça? Y a-t-il quelqu'un qui l'a pris par cœur, celle-là? Genèse 3:12. Ou il y en a un autre qui amène les choses totalement différentes. Et ça, c'est un verset messianique. Et je vous le lis, c'est dans Hébreux, chapitre 2, verset 12. « Lorsqu'il dit « J'annoncerai à tout ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée, et encore, je me confierai en toi, et encore, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. » Et l'église que Dieu m'a donnée, et la femme que Dieu m'a donnée. Il y en a un qui c'est le blâme, puis l'autre c'est la reconnaissance. Me voici avec ce que toi, Dieu, tu m'as donné. Et ça, quand on a cette attitude-là, là on est content. On est heureux, on trouve le vrai bonheur parce qu'on est content, on veut ce qu'on a, ce que Dieu nous a donné. Une autre chose qui fait partie de notre marche par la foi, le plaisir provient du fait de jouir de chaque moment, de chaque instant. Là, ça sonne peut-être pas très spirituel de parler de plaisir, mais pourtant, s'il y a des gens qui devraient savoir c'est quoi le vrai plaisir, le vrai fun, c'est bien les enfants de Dieu qui ont été lavés, libérés, qui connaissent la vraie vie. C'est eux qui devraient savoir le plus au monde c'est quoi le vrai plaisir. Parce que le reste, les plaisirs du monde sont vains, sont trompeurs. Nous, on sait c'est quoi le vrai plaisir. Je pense qu'on a eu un petit clin d'œil là-dessus. Moi, j'ai eu bien du plaisir en fin de semaine. J'ai pas, vous autres aussi, je pense, ça avait l'air d'être le fun, mais garde, on a... Comme chrétien, moi, je vous dis, j'ai vécu le monde, j'ai vécu chrétien, puis j'ai jamais eu autant de bon plaisir, de joie, puis de ça, que dans le Seigneur. Parce que c'est vrai, t'as pas besoin de te droguer, de boire pour que ça soit, t'as pas besoin de payer, de faire... C'est comme, c'est simple, c'est de même. Et... comme avec tout le reste, par exemple, si je me lance dans la quête du plaisir, si je cherche le plaisir comme une fin en soi, ben, il va fuir loin de moi. C'est-à-dire, le plaisir, c'est pas le but de la vie. C'est un agrément. En fait, les meilleurs moments de plaisir, c'est ceux qui sont spontanés, qui nous arrêtent là où est-ce qu'on est, puis qui nous font jouir de l'instant présent avec ceux que Dieu nous a donnés, puis qu'on peut s'en réjouir. Mais savez-vous quoi? Des fois, Dieu a des choses pour nous autres, puis à cause de ce que les autres pensent, la crainte de l'homme, on est restreint. On ne se réjouit pas. Mais quelqu'un qui vit cette liberté qu'il a en Jésus-Christ, il dit, peu importe ce que les autres peuvent penser, même si ça plaît aux autres ou non, moi je veux plaire à Dieu. On a un exemple de ça avec David. David, quand il revenait avec l'arche, David se réjouissait dans le Seigneur, puis il était là, puis tu sais, il dansait, il faisait pas, c'était un genre de tu sais, on pourrait passer une espèce de danse folklorique, ok? Il dansait devant l'arche, puis il se réjouissait, puis tout ça. Mais pensez-vous, là, c'était le roi. Michal a dit, il se déshonore devant tout le monde. Lui, le roi qui fait quelque chose de même. Mais savez-vous quoi? Lui, il se réjouissait en son Dieu. Puis il était content de ce que Dieu est en train de faire. Puis il s'en réjouissait, puis ça ne dérangeait pas ce que les autres y pensaient. Puis c'est d'ailleurs, lorsque Michal s'est adressé à lui, pour y faire le reproche, il dit, ça ne marche pas ce que tu fais là, il n'était pas content. Ben lui... qu'est-ce qu'il lui a répondu? C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Je veux paraître encore plus vil que cela et m'abaisser à mes propres yeux. Néanmoins, je serai en honneur auprès des servantes dont tu parles. Or, Michal, fille de Saül, n'eut point d'enfant jusqu'au jour de sa mort. En tout cas, c'est elle qui a moins ri le dernier. Mais l'idée, c'est simplement le point. Il ne se laissait pas... Là, je ne dis pas qu'il faut faire des niaiseries et tout ça, mais... Non, mais je veux dire, pour lui, c'était devant Dieu, puis il se réjouissait en son Dieu, puis même si les autres pouvaient en penser... Tu sais, par exemple, quelqu'un qui chante tout croche puis qui fausse. Ben, des fois, je sais que je fausse tout ça, mais ça me dérange pas. Juste de chanter, je chante pour le Seigneur. Tu sais, en tout cas, ici, on a peut-être une personne qui chante vraiment, que ça se distingue, là. Quand elle chante, « Wouah! » Tu sais, qui se met à d'opéra, là. Mais tu sais, pour le reste, là, mais c'est pas grave, ça. Je veux dire... Moi, ce que j'aime ici, c'est qu'on chante avec notre cœur. Puis, tu sais, c'est pas grave, mais s'il y en a qui chantent un peu tout croche, tu sais, on est comme le club. Je sais pas trop comment dire ça, mais. J'aime bien avoir une équipe, une église qui chante pas si bien, mais qui chante avec cœur, qu'une église qui chante tout parfait, mais que leur cœur est distant du Seigneur. Fait que, dans le fond, si tu vas vous dire à peine le temps s'arrêter, ce que les autres peuvent dire. Tu sais, des fois, on voit ça avec un enfant. Et un bon exemple, j'ai vu de ça. Connaissez-vous Adam Arsenault, la famille Arsenault, vous connaissez? Bon, mais Adam, quand il avait l'âge, à peu près 4-5 ans, oh man, mais il en était drôle, mais il faussait tellement, là, tu sais. Tel que je suis! Puis là, en tout cas, mais tu sais, il chantait tellement avec cœur, là, puis lui, je pense que son concept de chanter, c'est qu'il faut comme chanter fort, puis avec cœur, puis là, c'est ça que les parents avaient dit, c'était. Hey, mais il faussait, puis tu sais, mais c'est parce que ça jurait dans l'église, là. Parce que, tu sais, lui, là, c'était pas comme à moitié, là. Il chantait fort, pas pour gueuler, mais c'est parce que c'est comme vraiment avec tout cœur. C'est quoi? Moi, c'était au début de ma vie chrétienne. J'ai appris des leçons du petit Adam dans le temps. Mais il chante peut-être pas bien, mais savez-vous quoi? Il chante pour le Seigneur, puis il est tout content. Puis il nous rappelait d'une forme alors, parce qu'on avait une autre madame qui, elle, chantait wow, tu sais, avec les trémolos dans la voix, puis tout ça, puis. Je trouvais ça moins impressionnant. Vraiment, avec elle, je me sentais comme « Oh, man, moi, je chante comme un chaudron, tu sais. » Tandis qu'avec l'autre, ben, je me dis « Je me joins à l'autre chaudron pour chanter en chaudron. » Comprenez-vous, il y en a qui était plus édifiant, puis l'autre, je ne dis pas qu'on ne doit pas bien chanter, là. En tout cas, vous avez l'idée de... C'est vraiment faire les choses comme au Seigneur, et c'est ça qui va vraiment... Tu sais, on va prendre plaisir en notre Dieu. Septième point, la sécurité provient de se concentrer sur les valeurs éternelles. La sécurité provient de se concentrer sur les valeurs éternelles. Qu'est-ce que Jésus a dit? « Mes brebis entendent ma voix et je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. » Puis bon, la conclusion de Romains. Hein, car j'ai de l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est quoi que ces versets-là nous enseignent? Il n'y a pas plus sécur, plus en sécurité qu'un enfant de Dieu. Mais savez-vous quoi? Ça, c'est à cause que Dieu nous a donné une valeur éternelle. Il a racheté notre âme éternelle. Par contre, on peut se sentir énormément en sécurité lorsqu'on dépend de ce qui est ici-bas, qui est frêle, qui ne dure pas, qui est éphémère, puis en plus qu'on ne peut pas contrôler. Alors que Dieu, lui, si on se place sous son contrôle, on est en parfaite paix. Tu donnes la paix, parce qu'il se confie en toi. Ésaïe 26, 3. À tous ceux, je l'ai peut-être dit de travers, en tout cas, à ceux qui se confient en toi, tu donnes la paix, la paix. En anglais, ça dit « perfect peace », la paix parfaite.
Celui qui est ferme dans ses
sentiments. Celui qui est ferme dans ses sentiments, tu lui donnes la paix, parce qu'il se confie en toi. Je savais qu'il me manquait un bout, il manquait le début. J'ai fait une débarque en passant, en partant. Et ça vous pensez à ça, là. Tout ce qu'on a en ce moment, dans ce monde, là, ah, maintenant, on va le perdre. C'est-à-dire, on ne peut pas l'amener, puis... C'est pour ça que j'aime tellement la citation de... Connaissez-vous M. Jim Elliot, missionnaire dans l'Amazon, dans les années 50? « Il n'est pas fou celui qui laisse ce qu'il ne peut pas garder pour gagner ce qu'il ne peut pas perdre. » Ça, c'est la vraie valeur. Et cet homme est mort jeune. Lui et ses compatriotes, devant un grand danger, des menaces pour sa vie. Mais il y avait cette sécurité inébranlable qui a fait qu'il a persévéré. Vous savez pourquoi? Il a laissé une trace éternelle parce que des âmes précieuses ont été sauvées dans cette tribu éloignée de l'Amazon qui était tellement hostile, puis l'Évangile a complètement transformé cette peuplade-là de l'Amazon. Et finalement, la paix provient par le fait de calmer l'orage intérieur. Là, c'est Jonathan puis Jessica.
Ils ont l'impression qu'ils pensent au cinéma tout ça pour les deux.
Ah, j'ai presque fini là, pour les distractions, mais bon. La paix provient de calmer l'orage intérieur. Savez-vous, Jésus, un de ses titres messianiques, c'est le prince de paix. Encore, c'est dans Ésaïe 5-6. Ça nous dit dans Philippiens 4-9 que Dieu est le Dieu de paix. Et Jésus a dit qu'il nous donnait sa paix. Et cette paix s'approprie à chaque jour dans notre homme intérieur. Elle est là et elle garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ notre Seigneur. Et ça, c'est vital pour notre santé spirituelle. Et savez-vous quoi? Il y a beaucoup de choses, énormément de choses qui peuvent tourmenter nos vies dans ce monde dans lequel on vit. Le monde extérieur. Là, on parle de l'orage intérieur versus le monde extérieur. Vous savez, on ne peut pas contrôler ce qui arrive dans nos circonstances, dans les relations qu'on a avec les autres. On ne peut pas tout contrôler ça. Si on essaye, on va être misérable. Ça ne va pas bien aller. Mais on peut contrôler ce qui arrive en dedans. C'est pas nous, en fait, le Saint-Esprit, quand on se confie en Dieu, c'est ça. Il nous donne une paix dans nos pensées, dans nos émotions. Il nous permet d'avoir cette paix. C'est pour ça que lorsqu'il arrive des tempêtes, ce beau verset devient tellement précieux. Ne vous inquiétez de rien. Peu importe la tempête que Dieu peut permettre, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu avec des prières, des supplications et des actions de grâce. Merci Seigneur que tu envoies ça. Et là, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, hein, va calmer cet orage intérieur et va garder mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ, mon Seigneur. Donc, même si c'est le chaos tout autour, Dieu est plus grand que tout orage et rien ne peut arriver que Dieu ne puisse contrôler. C'est pour ça que on comprend nos problèmes et nos difficultés de manière bien différente en tant que chrétien parce qu'on voit que Dieu poursuit un but avec ça. Dieu ne laisse pas arriver des choses comme ça juste au hasard. Non, Dieu est un Dieu souverain qui permet le mal mais qui est capable de le transformer en bien. Parce qu'on peut penser des fois que nos circonstances, les personnes difficiles dans lesquelles, face auxquelles on est, on peut penser que ça nous empêche de devenir ce que vraiment on devrait devenir, alors que c'est le contraire. Dieu permet ces difficultés, ces circonstances, ces relations difficiles pour qu'il nous fasse, lui, devenir tout ce que lui veut qu'on devienne. C'est à travers l'adversité que Dieu fait ça. Et là-dessus, je vous invite à considérer une couple de petits versets que j'ai pris en note. Ça nous dit dans Romains, au chapitre 5, verset 3 et 4, « Bien plus, nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. » Et Jacques d'ajouter, « Mes frères, regardez comme un sujet complet de joie les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. » Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Et on connaît aussi, hein, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on comprend que lorsqu'on persévère dans l'humilité face à ce que Dieu nous envoie, dans la foi, croyant que Dieu, c'est lui qui l'envoie, puis que c'est pas un hasard, c'est à dessein. Lorsqu'on persévère à voir ces choses dans les épreuves, c'est là qu'on peut rentrer dans ce que Dieu est en train de faire, pour on va atteindre ses buts. C'est là qu'on va pouvoir avoir cette paix. Ou est-ce que oui, il y a de l'orage, mais en dedans, on a l'orage intérieur est calmé par la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Et savez-vous que c'est tellement courant ça comme problème? Écoutez bien, il y a des couples, à un moment donné, qui sont découragés puis épuisés, qui dit, ben, peut-être que changer de partenaire, ça serait la solution qui va régler, enfin, ce problème. D'autres peuvent avoir le même genre de pensée avec leur job, leur église, les différentes autres circonstances de la vie. Et l'affaire, c'est que même après qu'il y a eu ces changements-là, ces mêmes personnes sont face aux mêmes problèmes, mais savez-vous quoi? Encore plus découragées, puis désespérées. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien de réglé. Puis ils sont pires que... Ils reviennent à la case départ, mais encore plus découragés. Les problèmes et les situations difficiles sont le moyen d'atteindre le but que Dieu a avec nos vies. C'est quoi le but? Dieu veut qu'on le trouve là où il nous a placés. Oui, c'est dur la vie. Oui, c'est dur les relations interpersonnelles. Oui, ça va mal dans un monde déchu. Mais Dieu, il veut nous rencontrer là. Dieu est le rédempteur et celui qui restaure les gens là où ils sont, parce que oui, notre monde, ça marche pas, c'est tout croche, c'est plus le plan original, on n'est plus en Éden. Mais Dieu, comme Jésus s'est incarné dans ce monde, puis il est venu au milieu de nous, plein de grâce et de vérité, bien encore, il se présente dans la vie de ses enfants, plein de grâce et de vérité pour nous rencontrer là où on est rendu. Et rien n'est impossible à Dieu. Il n'y a pas de situation trop dure, trop désespérée, qui dépasse le point de la grâce de Dieu. Avec Dieu, on a toujours de l'espoir. Vous demanderez à Job. Et je ne suis pas en train de dire, des fois, c'est pas parce que Dieu ne peut pas nous rediriger dans notre vie. OK? Il y a de l'insatisfaction, mais des fois aussi, ça peut être Dieu qui nous redirige. OK? Je peux comprendre vraiment la légitimité de ça. Mais vraiment, c'est une question d'avoir les priorités aux bonnes places dans nos couples, nos familles, nos églises. Pour que vraiment Dieu puisse accomplir sa volonté. Puis en passant, un petit indice, souvent Dieu travaille le plus profond, le plus puissamment dans les vallées, dans les moments sombres. Les moments de sommet, puis de gloire, puis de « c'est beau », tout ça. Mais où est-ce que Dieu a travaillé le plus profond dans la vie? C'est quand on était dans le fond de la vallée, puis que ça allait vers. N'est-ce pas? Hein, si on fait le tour, là, on ferait un petit vox pop, là. C'est ça. Là où Dieu a plus forgé le caractère de Christ dans nos vies, c'est les vallées. C'est pas que les sommets, on est content pour les sommets, mais si notre vie était juste des sommets, on serait pas tout ce que Dieu veut qu'on devienne. Ça fait partie aussi de la volonté de Dieu, les vallées. Donc, savez-vous quoi? J'ai une nouvelle pour vous. Breaking news! On va tous mourir un jour. Ou on va être enlevé! OK? Mais, on va... Hey, faut que je fasse attention à mes phrases, des fois, ça peut être tellement choc que ça en fait réagir certains. On va tous mourir ou on va être enlevé, mais OK. Hey, j'ai presque fini, là. Là, j'ai perdu tout le monde, là. Justement, j'ai perdu tout le monde. Mais savez-vous quoi? Tout ce qu'on a ici sur Terre, nos possessions, nos talents même, t'sais, les relations telles qu'on les a, ça va avoir une fin. Ça va pas durer éternellement. Les seules choses qu'on va pas perdre puis qui durent éternellement, c'est ce que Dieu fait, c'est ce qui vient de lui, notre relation avec lui, notre relation les uns les autres en lui, parce qu'au ciel on va se revoir ses enfants. C'est pour ça que ça nous aide à comprendre pourquoi Paul il dit Christ est ma vie et mourir m'est un gain. C'était sa philosophie de vie. Et vous, je peux vous le dire d'une autre façon. Paul n'a pas dit la carrière c'est ma vie, parce que ça serait perdu. Ça finit un jour une carrière. La famille c'est ma vie. Ouais, ben, ça aussi, il y a un temps limité. Le ministère c'est ma vie. Non, ces choses-là vont avoir une fin. Mais lorsque le but de notre vie, c'est Dieu lui-même, Christ est ma vie. Là, vraiment, on a la vraie satisfaction. Je vais demander à, je sais pas qui, là, deux volontaires. Je... Ben tiens, Mathias, il est tout motivé, il est déjà parti à la course. Ah, puis aussi Raphaël, là. Ben ouais. Raphaël, peux-tu distribuer ça? Ah, Raphaël et Mathias sont full c'est motivés. Quoi? C'est pour donner aux personnes. Faut que tu donnes ça aux personnes.
Ça, c'est quoi?
Donne-en, puis tu me le diras tantôt.
On va le regarder après.
OK. Ouais. Ouais.
On va partager. Il a donné à tout le monde.
Ouais, c'est ça. Alors, qu'est-ce qui arrive quand je donne une feuille de même? Là, plus personne n'écoute. Fait que là, j'ai vraiment fini mon message en faisant que personne n'écoute rien.
Désolé, mais pour moi, on va recommencer la fin.
Non, mais je fais juste vous dire, regardez, c'est une feuille recto-verso. C'est pour amener chez vous. Et là, c'est un résumé de tous les points qu'on a vus dans les deux derniers messages. OK, les huit, le guide, la marche par la foi. Puis là, j'ai trouvé ça bon. Je vais terminer en lisant ça. Puis ça va être comme ça qu'on va terminer le message. Ceci est écrit par quelqu'un, source inconnue, qui a décidé de prendre Dieu au mot. Je fais partie de la communauté des sans-gêne. J'ai le pouvoir du Saint-Esprit, la clé a été lancée. J'ai franchi la ligne, la décision a été prise, je suis un de ses disciples. Je ne regarderai pas en arrière, je ne me relâcherai pas, je ne ralentirai pas, je ne reculerai pas, je ne me tairai pas. Mon passé est rejeté, mon présent a un sens, mon avenir est assuré. J'en ai fini avec la vie au ralenti, la marche à vue, la petite planification, les genoux souples, les rêves incolores, les visions insipides, les discussions banales, les dons misérables et les objectifs minuscules. Je n'ai plus besoin de prééminence, de prospérité, de position, de promotion, d'éloge ou de popularité. Je n'ai plus besoin d'avoir raison, d'être le premier, d'être au sommet, d'être reconnu, loué, considéré ou récompensé. Je vis maintenant dans la présence et je m'appuie sur la foi. J'aime par la patience, j'élève par la prière et je travaille par la puissance. Mon visage est fixé, ma marche est rapide, mon but est le ciel, ma route est étroite, mon chemin est rude, mes compagnons peu nombreux, mon guide fiable, ma mission claire. Je ne peux pas être racheté, compromis, détourné, attiré, retourné, dilué ou retardé. Je ne flancherai pas devant le sacrifice, je n'hésiterai pas devant l'adversité, je ne négocierai pas à la table de l'ennemi, je ne réfléchirai pas à la scène de la popularité, je ne perdrai pas dans les labyrinthes de la médiocrité. Je n'abandonnerai pas, je ne me tairai pas, je ne laisserai pas tomber, et je ne me consumerai pas tant que je n'aurai pas prêché, prié, payé, amassé et ramassé et resté pour la cause de Christ. Je suis un disciple de Jésus. Je dois aller jusqu'à ce qu'il vienne, donner jusqu'à ce que je tombe, prêcher jusqu'à ce que tous sachent et travailler jusqu'à ce qu'il s'arrête. Le reste de votre vie est devant vous. Vous pouvez devenir la personne que Dieu veut que vous soyez. Rien ni personne ne peut se mettre au travers de ton chemin.
Amen.
Je ne sais pas si c'est qui a écrit ça, mais c'est quand même un poème assez... hein? Fait qu'on va prier là-dessus. Seigneur, on te remercie de ce que tu as fait de nous, tes enfants, en Jésus, notre bien-aimé Sauveur. Nouvelle création, nouveau départ, nouvelle espérance. Tu as fait toutes choses nouvelles et merveilleuses. Seigneur, on veut t'en remercier. Et alors qu'on termine cette série sur la vie victorieuse en Jésus-Christ, on veut marcher par la foi. On ne veut pas marcher par la vue. Et Seigneur, si le chemin est rocailleux, si les ennemis sont nombreux, ça ne change pas, Seigneur, que tu es avec nous. Et c'est notre désir, Seigneur, nous accrocher à toi. On veut, Seigneur, marcher par la foi et non par la vue, se confier dans ta sagesse et non la nôtre. Et Seigneur, se réjouir de ta vie et non pas la nôtre. Seigneur, ta vie qui est satisfaisante, riche, belle, débordante. Seigneur, on veut que tu la vives pleinement à travers nous, Seigneur. Merci pour ce temps qu'on a pu prendre ensemble à considérer ces vérités précieuses. Qu'on les médite, qu'on y marche. On te le demande au nom de Jésus. Amen. 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 Si vous voulez.